Donc dans cette dernière émission consacrée à Alan Moore et au grand cycle sur ce personnage, on ne pouvait pas rester sans vous parler d'une série qui l'a fait connaître, qui l'a fait débuter, d'un personnage qui est très connu en France parce qu'il a eu une seconde vie plus tard, mais d'un personnage dont les origines, elles, sont méconnues. Ce personnage, c'est donc Captain Britain, sur lequel Alan Moore a commencé à essuyer ses guêtres. Et voilà, donc Stéphane avait prévu de nous en parler, et on va donc se faire un plaisir de l'écouter, nous parler de Captain Britain et de cette série qui est pleine de surprises.
Oui, ben, n'hésite surtout pas à aussi intervenir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... L'histoire de Captain Britain est quand même, on va un peu le dire... complexe
et à la fois la partie effectivement principale du départ, la mythologie, et quand même là, ça c'est vraiment l'œuvre de Moore.
De Moore et aussi un peu de Claremont au départ.
Et de Claremont au départ, puisque c'est lui qui a créé le personnage.
Parce qu'en fait, pour comprendre un peu le contexte, c'est un personnage qui en fait n'était jamais a été créé au départ pour le marché anglais. Et qui a été d'abord qui a été lancé en 1976, donc dans un petit bouquin anglais, qui s'appelait Captain Marvel Weekly, qui était sorti le 13 décembre 1976. Donc en fait c'est Marvel qui voulait un petit peu pénétrer sur ce marché-là, et donc qui avait lancé plusieurs séries avec des Hulk, quelques Nick Fury, des choses comme ça, et aussi mais voulait aussi un personnage qui soit plus anglais pour pouvoir aussi ancrer le personnage sur ce continent là et vraiment lui donner une petite touche, une patte autochtone. Donc en fait c'est Claremont qui se récupère le job, et qui lui aussi est un scénariste débutant, bon, qui a commencé une année plus tôt chez Marvel, et qui prend un peu ce qu'on lui donne. C'était juste avant qu'il commence à travailler sur les X-Men et d'autres séries comme où là il va complètement prendre son envol. Mais donc là il crée un personnage un peu générique, Captain Britain évidemment pour la référence à Albion, avec comme dessinateur Aptrang, donc qui est aussi très connu pour tout le travail qu'il avait pu faire sur Hulk.
Et Aptrang qui est quand même à l'époque au sommet de sa carrière, parce qu'il est quand même bien meilleur que ce qu'il nous fera sur sa fin de carrière 20 ans plus tard.
Oui, surtout lorsqu'il essaye de singer des styles un peu plus modernes comme d'auteurs à la mode comme celui de Liefeld. Non, ça passe pas, hélas. Donc en fait, Captain Britain, c'est le personnage de Captain Britain est en fait créé donc comme ça par Claremont. Et donc on a un personnage qui fait partie de qui est issu d'une famille aristocratique anglaise, un peu pauvre, fauché, pour tout dire, et qui mais quand même encore trop fier de ses origines aristocratiques, qui ne veut pas se mêler avec le peuple. Tout en sachant qu'ils n'ont plus les moyens de rester avec leurs propres confrères de classe. Donc notre cher Captain Britain, donc Brian Braddock, est toujours élevé dans cette espèce d'atmosphère un peu particulière. Et qu'on retrouve, puisqu'on retrouvera toujours ce thème dans la série, puisqu'il est toujours entre deux mondes, jamais à sa place, il ne sera jamais à sa place. Donc c'est quelqu'un en fait de timide, de très renfermé, solitaire, et qui est aussi un étudiant en physique nucléaire. C'est dans ce cadre-là qu'il se retrouve après la mort de ses parents, qui sont normalement morts dans un accident de voiture. On apprendra plus tard qu'en fait il a été tué par un ordinateur domestique qui occupait toute la caverne qui était sous le manoir. Oui, ça fait très Batman aussi. Et en fait, donc il trouve un poste dans un centre de recherche nucléaire qui est paumé en plein milieu de l'Angleterre, pas très loin de Stonehenge. Déjà, c'est effectivement, on peut commencer à se dire Stonehenge plus recherche nucléaire, qu'est-ce que ça va faire, cette espèce de mélange?
Dans un concept classique de l'époque, on voit à peu près aussitôt ce qui va se passer.
Eh bien, là, effectivement, c'est quand même un peu quelque chose de particulier, parce que là, Claremont se fait une origine un peu plan-plan, mais en ayant quand même une petite originalité, c'est que on aurait pu penser que ça serait un héros atomique, créé par des radiations ou autre. Bon, là non. En fait, le centre de recherche, ce centre de recherche est attaqué par quelques fondus. Donc en fait, une organisation qui s'appelait Alors c'était avec les Raven. C'est les Ravers, donc avec un criminel qui s'appelait José Astrag. Et donc il essaye, lors de sa fuite, il est rattrapé par les sbires de ce jeune Astrag et blessé. Et il réussit à se traîner sur le site de Stonehenge, où à ce moment-là apparaît deux personnages qui vont avoir un rôle extrêmement important pour toute la suite de la série. Merlin, donc qui est. On peut de Merlin, Merlin, l'Enchanteur, enfin donc on est toujours dans cette mythologie un petit peu arthurienne. Et aussi sa sœur, enfin sa fille, excusez-moi, Roma, et qui sont en fait les gardiens du l'Omniverse, donc les gardiens de tout l'univers, de tous les multivers Marvel qui peut exister. Puisque la Terre, notre Terre, celle où les héros Marvel existent, n'est que la Terre 616.
Tout à fait. Donc c'est d'ailleurs une expression donc qui est née dans Captain Britain, Terre 616, et qui est une expression qui maintenant a traversé complètement l'univers Marvel et qui est reconnue par tout le monde.
Tout à fait.
Y compris chez DC, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un moment chez Infinite Crisis, quand les Terres se télescopent. Il y a deux Terres qui se télescopent, et quand on ajoutait les numéros, ça faisait 616.
Non mais puis bon, ça permet comme ça aussi de faire une terre de laisser quand même une porte ouverte pour d'autres crossovers futurs, quoi. Mais là c'était peut-être plus un clin d'œil, mais c'était sympa. Donc effectivement, notre cher Captain, futur Captain Brighton, se voit proposer un choix, donc de devenir un super-héros, de devenir le gardien de la Grande-Bretagne. Donc en fait, il doit choisir à ce moment-là entre deux artefacts de pouvoir. L'amulette de la vérité, du droit, donc, et l'épée de puissance. Effectivement, notre cher Brian Braddock, ne se considérant pas comme un guerrier, lui va choisir l'amulette, ce qui va quand même avoir un retentissement assez important pour la suite. Et qui va aussi conditionner son mode de pensée pour tout le reste de son existence. On a vu un peu plus tard aussi ce que pouvait donner le choix inverse avec une de ses successeurs.
Oui, et c'est d'ailleurs lui qui lui donne le choix.
Même avant, puisque c'était Chuck Austin. Oui, effectivement. Effectivement, non, tout à fait, dans les épisodes d'Avengers de Chuck Austin.
Voilà, où il est remplacé, effectivement, mais ça, c'est bien plus tard, dans les épisodes qui sont sortis en France, où plus tard il remplacera directement Merlin et Roma. Mais revenons donc aux origines, et donc à cette amulette donc, qu'il prend et qui le transforme en Captain Britain.
Tout à fait.
Vas-y, je t'écoute.
Et après, Bonasson, en fait, c'est aussi le. Bon, on a droit à quelques aventures assez classiques. Bon, parce que là, effectivement, il réussit à s'occuper de Strag et tout. Mais après, bon, il est devenu donc un super-héros. Donc après, petit à petit, bon, il va y avoir des choses qui vont se rajouter. Mais c'est quand même des histoires qui sont assez classiques. Clairement, on va en plus quitter assez rapidement le navire, jusqu'à ce que finalement Alan Moore débarque. Et là, effectivement, Alan Moore au sommet, au début de sa carrière, mais on sent quand même que c'est un scénariste qui va apporter et imposer totalement sa patte sur le personnage. Alors déjà, effectivement, bon, Alan Moore arrive. On a eu quand même eu quelques dessinateurs qui n'étaient pas forcément terribles sur cette les publications en anglaise. Donc Pablos Marcos, certains potes, bon, ce sont des dessinateurs qui sont solides, mais qu'on ne peut pas dire passionnants.
Tout à fait, non, mais c'est vrai que c'est pas non plus une grande période, effectivement, dans la période Claremont. Ils sont quand même tous disponibles en version française, puisqu'on avait eu un one-shot qui était sorti par Arredi Artima.
Voici. Oui, à l'époque, ils étaient sortis qu'en noir et blanc.
Oui, mais la version
française. Voilà. En Angleterre, qu'en noir et blanc. Alors en plus, donc, c'est vrai que ça a posé quelques problèmes, avec en plus un costume kitsch au possible.
Voilà, le costume effectivement qui était pas terrible. D'ailleurs, c'est Alan Moore qui changera pour le costume qui deviendra classique par la suite.
Oui, ben avec Alan Davis qui s'était inspiré un peu des costumes militaires anglais de Dapara. Donc effectivement, avec ses bottes montantes, c'est vrai que ça faisait quelque chose qui sortait.
Voilà. Et avec d'ailleurs la suppression du spectre, ce que t'as assez
du sceptre,
pardon. Ce qui était assez bizarre, parce que donc il avait ce sceptre d'ailleurs. Il choisit une allumette, du coup on lui met un sceptre à la place de l'épée.
Allumette.
Oui, il a choisi l'allumette.
Qu'est-ce que j'ai dit? Allumette.
L'allumette. Donc, et en fait, après, quand ils ont changé ce look, pour s'en débarrasser, on nous a dit que les circuits avaient été ajoutés dans le X qu'il avait sur le comment.
Ouais, en fait, de toute façon, son costume reprenait le dessin, le nouveau costume s'inspirait très fortement de l'Union Jack. Alors effectivement, pour comprendre ça aussi, c'est que accessoirement, notre cher Brigade Braddock avait pris 30 kilos de muscles.
Ah, c'est clair.
Alan Davis s'était passé par là. Effectivement, on avait après un beau gabarit. Quoi. On pouvait le mettre sur un terrain de rugby. Et c'est les All Blacks qui faisaient qui cavalèrent du terrain.
Et il en a repris 30 de plus après quand Alan Davis est arrivé sur Excalibur. Il y a un moment dans le Cross Time Caper quand il lui fait nouveau costume où là, il a encore pris 30 kilos.
Oui, en fait, derrière, c'est à partir de ce moment-là que Alan Davis commence à sortir vraiment le mettre la surmultipliée. Et fait découvrir à Brian Braddock ce qui est la principale, enfin une des originalités du rôle de Captain Brighton. En fait, il est un membre d'une organisation interdimensionnelle. On pourrait dire que c'est un peu une organisation à la Green Lantern Corps, mais là, cette fois-ci, il y a en fait un représentant par dimension. Donc pour chaque terre alternative, il y a au moins un Captain Brighton, ou voire plusieurs Captain Brighton. Donc par exemple, on tombe sur des terres nazies, sur des terres barbares, et bon, c'est quelque chose, enfin c'était un petit peu déjà assez original, et ce qui ouvrait un potentiel d'histoire assez... c'est exceptionnel.
Et c'est ce qui va faire aussi le succès de la série Excalibur par Claremont, où il reprend le personnage.
La suite après, voilà. Parce qu'en fait, quand on disait que la série, en fait, c'est pour tout dire, le personnage s'est baladé entre plusieurs hebdomadaires et aux États-Unis, enfin en Angleterre, et que derrière, ils avaient beaucoup de mal, enfin ils n'arrivaient pas à le stabiliser. Alors ce qui fait que bon, on est passé du titre de Captain Brighton, après Super Spider-Man Captain Brighton, pour passer sur un Hulk Weekly, on revient après sur un titre qui s'appelle Marvel Super Heroes, après aussi The Daredevils. On repart sur Captain Brighton Kill Monthly, bon et ainsi de suite.
En même temps, il y a plein de titres français que Panini a massacré de la même façon avec des éditions. Enfin, faut voir la manière dont Daredevil est passé dans les 12 dernières années. Il est passé par toutes les cases.
Oui, mais là,
Hulk, de la même façon.
Pour du matériel original, pour essayer de stabiliser un public, tu m'avoueras qu'on a pu quand même faire beaucoup mieux.
Ça, c'est clair.
Donc, effectivement, ça n'arrangeait pas les choses. Donc. Après, effectivement, bon, au départ, comme il était cantonné que sur, sur les perfis, enfin, sur un Albion, eh bien, aussi, ils ont voulu, Marvel a senti qu'il pouvait y avoir peut-être un potentiel sur le personnage, et que, bah, il fallait aussi peut-être un peu l'introduire, aux États-Unis. D'où les fameux Marvel Team-Up de Claremont et de.
John Byrne, oui, exact. Épisode d'ailleurs qui était assez spéciaux parce que il avait encore l'ancien costume.
C'était avec l'ancien costume.
Alors qu'il avait déjà le nouveau dans la série anglaise.
Non, je crois pas.
Il y a eu un point de continuité comme ça où les apparitions anglaises ne tenaient pas compte du nouveau costume.
Mais de toute façon, ils avaient utilisé en plus en même temps pendant un moment une partie d'un des épisodes. Une partie dans des épisodes justement à l'intérieur pour le faire passer. Enfin bon, ça avait été un espèce de montage pas forcément terrible. Et mais par contre, le public américain a complètement adhéré au personnage. Alors effectivement, pour la petite histoire, faut qu'un échange d'étudiants entre des centres de recherche, enfin des universités, c'est bien. Mais quelle est la probabilité qu'un étudiant physicien anglais doté de super pouvoirs arrive chez soit logé chez Spider-Man, chez Peter Parker. Donc là quand même c'était un poil capillotracté.
Quelle était la probabilité qu'une jeune femme qui trouve l'épée de Red Sonja dans un musée américain et se transforme en Red Sonja soit justement Mary Jane Parker, la fiancée de Spider-Man?
Oui, mais bon, avec la magie de Kulan Gat, hein.
Ouais, pas une mauvaise foi s'il te plaît.
Non, mais bon, c'est... Mais à côté de ça, ça a donné parmi les plus beaux épisodes.
Ah, ça, on est tout à fait d'accord, mais c'est vrai que...
Par Byrne, excuse-moi, mais...
On est bien d'accord. Austin, on est bien d'accord, mais c'est vrai que le concept de façon de Marvel Team-Up amenait toujours à ce genre de rencontres plus qu'improbables et avec des raccourcis scénaristiques un peu faciles.
À part quelques une ou deux qui pouvaient être intéressantes. Donc, effectivement, mais notre cher... on va le revoir après apparaître aussi, il va avec beaucoup plus d'interactions puisqu'on va voir le personnage comme le Black Knight qui était lui aussi d'origine anglaise qui va être là-dessus. On va le voir aussi dans le contest des champions,
tout à fait.
Et derrière, ben Alan Moore pendant ce temps lui va travailler à développer tout cet univers. Donc bon, filez un diamant brut à Alan Moore, il va vous sortir la super gemme.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a des épisodes à Callan Davis qui ont été faits, qui sont fabuleux. Alors, ces épisodes étaient sortis... Il y a deux TPB qui existent aux États-Unis. Oui. Le premier, qui est inédit en France, qui avait été annoncé par Semic à l'époque en souscription, qui n'ont jamais eu le temps de faire. Le deuxième, il est sorti chez Panini. Et il reprend ce qui devait être dans X-Men Archives, qui était sorti aux États-Unis avec les rééditions.
Avec en plus un gros problème éditorial, parce qu'il y avait eu, ils avaient fait l'impasse sur un peu de rédactionnel pour mettre un peu en perspective l'histoire du personnage. Donc débarquer en plein milieu du run d'Alan Moore où on commence par le changement de costume et vraiment tout le développement du côté interdimensionnel. De la mythologie de Captain Brighton, il y a de quoi désarçonner tous les fans.
En plus, il y a un épisode qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu. En termes de censure, il y a un épisode où il est dans les vapes, il est totalement nu, et comme ça n'avait pas plu et que l'éponge de Davis l'avait dessiné nu, on a demandé au coloriste de le redessiner avec son costume, de recoloriser avec le costume. Donc il est nu. Mais il a les couleurs du costume, sans relief, et les cheveux qui se passent à travers le casque. Mais effectivement, il y avait cette censure qui était dans la version d'origine, et qui n'a pas été recolorisée.
Je refais foutre dans les épisodes, enfin dans mes sources. Mais non, c'est à voir ça. Donc effectivement, bon, le gros travail qu'il va avoir, que va faire Alan Moore, c'est déjà de développer ce côté interdimensionnel, de développer aussi le casting. De la série, donc en rajoutant au départ un officier de police Dai Thomas, aussi une sœur donc Betsy Braddock qui va avoir une importance vraiment une importance par la suite dans les New Mutants puis Excalibur et X-Men puisque c'est Psylocke.
Tout à fait. Alors, en sachant quand même que sur Betsy, il y a eu une utilisation qui était très américaine assez vite. Sur le personnage de Day Thomas ou des jumeaux Alistair et Alison Stewart, on a eu une utilisation très anglaise. C'est-à-dire que ces personnages-là sont quand même restés à la base de Marvel UK. Mmh. Et c'est des personnages qu'on a vus de manière transversale dans toutes les séries et qui structuraient quand même l'univers.
Avec les Knights of Pendragon, etc. Voilà, donc on va retrouver, enfin, qu'on retrouvera. Les Marvel UK, il y aura matière à faire une chronique parce que c'est quand même.
Il y aura matière à faire plusieurs chroniques parce que sinon. On n'est pas couché.
L'histoire aussi d'un échec, enfin d'une tentative intéressante, avec quelques réussites, mais aussi un échec cuisant en matière de financière et éditoriale.
Tout à fait.
Donc effectivement, après, aussi le gros travail d'Alan Moore, c'est que un héros ne vaut que par les ennemis qu'il peut avoir. Et là, effectivement, il va quand même il va réussir à développer des choses très très particulières, comme Jasper, le cher Jasper.
C'est il y a des concepts quand même chez Moore.
Oui, à tel point que d'ailleurs, après, plus personne n'a jamais osé les réutiliser ou autre, à part quelques apparitions, surtout pour Jasper, via Claremont, qui a un petit peu tenté ça lors du procès de Magneto, où on le voyait batifoler, ainsi de suite. Mais, et surtout, l'arc Némésis de Captain Brighton, qui va quand même lui causer beaucoup de problèmes, c'est The Fury.
Tout à fait. Il y a un personnage qui, par contre, lui, a peu traversé aux États-Unis.
Il n'a été réutilisé qu'une fois dans les Uncanny X-Men de Claremont, troisième passage sur la série.
Mais c'est pas un personnage, effectivement. On s'est beaucoup plus concentré sur son frère pour en faire Nemesis à Captain Britain que sur ce personnage-là.
Oui, mais en fait, au départ, même pour la petite histoire, Claremont voulait réutiliser The Fury bien avant, en le faisant fusionner à l'époque de Fall of the Mutants avec Nimrod. Et là, il y a des éditeurs en chef chez Marvel qui ont eu un drapeau blanc, interdiction, etc.
Faut dire qu'à l'époque, tu interdis plein de trucs.
Oui, mais il faut dire qu'aussi quand même le concept de Fury à utiliser, puisque c'est en fait une machine bio, un organisme de biogénétique une monstruosité qui a la possibilité de s'adapter à n'importe quelle attaque. Et qui en fait décime les dimensions, dimension après dimension. Il s'attaque au corps. Et on a Jaspers qui essaye de l'utiliser pour ses propres manipulations. Et ce qui se passe, qui va assez mal se finir.
Voilà. On va peut-être quand même décrire un peu le personnage de Jaspers. On a parlé en personnes qui le connaissent, mais pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le personnage, en deux mots, ça c'est un blanc. Comment ?
The Bad Guy, une espèce de petit truc anglais, on va dire, en look, avec des petites moustaches, mais supérieurement intelligent et une catastrophe monumentale. Donc si tu as d'autres informations.
Non, mais c'est effectivement ce que là on avait parlé sans vraiment le décrire, c'était pour que les gens sachent bien. On n'est pas effectivement dans un personnage. C'est pas un gros bourrin qui tape.
Voilà. C'est exactement l'opposition avec un personnage comme Captain Brighton, on s'attendrait à une opposition physique. Et là, finalement, le challenge se passe plus sur le niveau intellectuel. C'est plus le côté un peu planificateur, joueur d'échecs, manipulateur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est tout dans cette époque aussi où on voit apparaître des personnes comme le Saturn 9, qui a quand même aussi une importance pour la suite, les TechNet, tout ça.
Tous ces personnages qui font le charme, encore une fois, la série Excalibur quand elle est créée.
Bah oui, comme les Lycaons, après, etc. C'est là aussi qu'il y a toute cette continuité qui ressort.
Et qu'on voit que Claremont était quand même un grand fan de la série.
Ah oui, mais il a toujours suivi la série. Parce qu'après, de toute façon, Alan Moore va quitter la série de façon un peu précipitée suite à un conflit avec un de ses éditeurs.
Ce qui est arrivé assez souvent à Alan Moore, sur différents éditeurs qu'il a pu...
Et sur une question financière.
Oui, ça lui arrive aussi plus d'une fois.
Tout à fait. Et en fait, bon, le successeur qui arrive, Jamie Delano, qui par contre a été coopté à la fois par Alan Davis et par Alan Moore.
Donc, mais c'est vrai qu'il y a un moment où chez Marvel UK, il y avait beaucoup de cooptations quand même qui se faisaient.
Oui, malheureusement. Enfin, ça donnait quand même la qualité de la série qui lui a permis de se maintenir tant bien que mal. Donc effectivement, là, on va avoir aussi le rôle un peu plus prééminent. Parce que justement, après toute cette question du coma avec Jasper et The Fury, Ryan Braddock laisse tomber le rôle de Captain Britain, qui va être repris par Betsy Braddock. Qui va s'apercevoir très rapidement que ben elle n'est pas là, enfin qu'elle n'est finalement pas à la hauteur du rôle, ce qui va quand même lui coûter ses deux yeux. Oui, tu voulais dire ?
Non, je faisais signe aux mecs de Split Screen qui sont derrière, qui sont en train de s'endormir dans les canapés.
De commencer à se préparer.
Bah ouais, un peu, ouais, ce qui est quand même... il va bientôt être l'heure.
Donc effectivement, donc, là, c'est un peu là où tout va s'arrêter. Donc on va se retrouver avec une nouvelle Captain Britain qui va se retrouver mutilée. Son frérot, pas tout à fait content, va revenir à la charge et effectivement trucider ce vilain, le Slave Master. Et c'est à ce moment-là que la série va s'arrêter aux États-Unis, va s'arrêter en Angleterre. S'arrêter, oui, mais pour en être de façon quand même tout aussi intéressante, puisque c'est à ce moment-là que Claremont et Alan Davis, qui étaient toujours le dessinateur de Captain Britain, vont lancer en 1988 Excalibur, juste après le crossover Fall of the Mutants, où les X-Men vont mourir, disparaissent à Dallas, dans Dallas, et une partie des X-Men avait été blessée un peu précédemment dans le massacre des Morlocks. Et c'est à ce moment-là que, de toute façon, une partie des X-Men donc, qui étaient blessés, comme Nightcrawler et Shadowcat, qui étaient donc à l'époque sur Green Island,
oui.
Apprennent que les X-Men sont morts et qu'ils vont fonder avec donc Captain Britain, Rachel Summers.
Alors Captain Britain, Rachel Summers, Megan.
La future femme de Braddock.
Qui sort déjà avec depuis un moment.
Voilà. Futur marié. Et vont donc fonder Excalibur.
Voilà,
donc, j'ai pas oublié un membre.
Alors, il y avait Nightcrawler, ils étaient 5. Donc, c'est ça, non ? Nightcrawler, Kitty Pryde, Phoenix, Megan et Brian. Donc effectivement ça devient la série Excalibur, où à l'époque on nous dit que l'héritage de Xavier, sa philosophie est morte avec les X-Men, et par conséquent ils reprennent une idée qui leur est proche, qui est l'idéal arthurien, pour se lancer sur ce biais.